Vidocq, Mémoire, chapitre 40. Peu de temps après la difficile exploration qui fut si fatale au tonnelier, je fus chargé de rechercher les auteurs d'un vol de nuit commis à l'aide d'escalade et d'effraction dans les appartements du prince de Condé au palais Bourbon. Des glaces d'un très grand volume en avaient été disparues, et leur enlèvement s'était effectué avec tant de précaution que le sommeil des deux cerbères, qui suppléaient à la vigilance du concierge, n'en avait pas été troublé un instant. Les parquets dans lesquels ces glaces étaient enchâssées n'ayant point été endommagés, je fus d'abord porté à croire qu'elles avaient été extraites par des ouvriers miroitiers ou tapissiers. Mais à Paris, ces ouvriers sont nombreux, et parmi eux, je n'en connaissais aucun sur qui je pusse, avec quelque probabilité, faire planer mes soupçons. Cependant, j'avais à cœur de découvrir les coupables, et pour y parvenir, je me mis en quête de renseignements. Le gardien d'un atelier de sculpture établi près du quinconce des Invalides me fournit la première indication propre à me guider. Vers 3 heures du matin, il avait vu, près de sa porte, plusieurs glaces gardées par un jeune homme qui prétendait avoir été obligé de les entreposer dans cet endroit en attendant le retour de ses porteurs, dont le brancard s'était rompu. Et 2 heures après, le jeune homme, ayant ramené 2 commissionnaires, leur avait fait enlever les glaces et s'était dirigé avec eux du côté de la fontaine des Invalides. Au dire du gardien, l'individu qu'il signalait pouvait être âgé d'environ 23 ans. Il n'avait guère que 5 pieds 1 pouce. Il était vêtu d'une redingote de drap gris foncé et avait une assez jolie figure. Ces données ne me furent pas immédiatement utiles, mais elles me conduisirent indirectement à trouver un commissionnaire qui, le lendemain du vol, avait transporté des glaces d'une belle grandeur rue Saint-Dominique, où il les avait déposées dans le petit hôtel Caraman. Il se pouvait bien que ces glaces ne fussent pas celles qui avaient été volées. Et puis, en supposant que ce fussent elles, qui me répondait qu'elles n'avaient pas changé de domicile et de propriétaire? On m'avait désigné la personne qui les avait reçues. Je résolus de m'introduire chez elle. Pour ne lui inspirer aucune crainte, ce fut dans l'accoutrement d'un cuisinier que je résolus de m'offrir à ses regards. La veste d'indienne et le bonnet de coton sont les insignes de la profession. Je m'en affublai et, après m'être bien pénétré de l'esprit de mon rôle, je me rends au petit hôtel de Caraman où je monte au premier. La porte est fermée, je frappe, on m'ouvre. C'est un fort beau jeune homme qui s'enquiert du motif qui m'amène. Je lui remets une adresse et lui dis que, informé qu'il avait besoin d'un cuisinier, je prenais la liberté de venir lui offrir mes services. « Oh mon Dieu, mon ami, me répondit-il, vous êtes probablement dans l'erreur. L'adresse que vous me donnez ne porte pas mon nom. Comme il y a 2 rues Saint-Dominique, c'est sans doute dans l'autre qu'il vous faut aller. Tous les Ganymèdes n'ont pas été ravis dans l'Olympe. » Le beau garçon qui me parlait affectait des manières, des gestes, un langage qui, joint à sa mise momentanément, me montrèrent tout d'un coup à qui j'avais affaire. Je pris aussitôt le ton d'un initié au mystère des ultra-philanthropes, et après quelques signes qu'il comprit parfaitement, je lui exprimai combien j'étais fâché qu'il n'eût pas besoin de moi. « Ah, monsieur, lui dis-je, je préférerais rester avec vous, lors même que vous ne me donneriez que la moitié de ce que je puis gagner ailleurs. Si vous saviez combien je suis malheureux, voilà 6 mois que je suis sans place, je ne mange pas tous les jours. Croiriez-vous qu'il y a bientôt 36 heures que je n'ai rien pris? Oh, vous me faites de la peine, mon bon ami. Comment donc? Vous êtes encore jeune, alors, à jeun? Alors, vous vous dînerez ici. J'avais en effet une faim capable de donner au mensonge que je venais de lui faire toutes les apparences d'une vérité. Un pain de 2 livres, une moitié de volaille, du fromage et une bouteille de vin qu'il me servit ne séjournèrent pas longtemps sur la table. Une fois rassasié, je me mis à l'entretenir de ma fâcheuse position. « Voyez, monsieur, lui dis-je, il est possible d'être plus à plaindre. Je sais, 4 métiers, et des 4, je ne puis en utiliser un seul. Tailleur, chapelier, cuisinier. Je fais un peu de tout, et n'en suis pas plus avancé. Mon premier état était tapissier-miroitier. » « Tapissier-miroitier ? » reprit-il vivement. Et sans lui laisser le temps de réfléchir à l'imprudence de cette espèce d'exclamation, « Eh oui, poursuivis-je, tapissier-miroitier, c'est celui de mes 4 métiers que je connais le mieux. Mes affaires vont si mal qu'on ne fait presque plus rien en ce moment. « Tenez, mon ami, me dit le charmant jeune homme, en me présentant un petit verre, c'est de l'eau de vie, cela vous fera du bien. Vous ne sauriez croire combien vous m'intéressez. Je vais vous donner de l'ouvrage pour quelques jours. Ah, monsieur, vous êtes trop bon. Vous me rachetez la vie. Et dans quel genre, s'il vous plaît, vous conviendrait-il de m'occuper? Mais dans l'état de miroitier. Ah, si vous avez des glaces à arranger, trumeaux, psyché, bonheur du jour, joie de Narcisse, n'importe, vous n'avez qu'à me les confier. Je vous ferai, comme on dit, voir un plein de mon métier. Oh, j'ai les glaces de toute beauté. Elles étaient à ma campagne d'où je les ai fait venir, de peur qu'ils ne prêtent à messieurs les Cosaques la fantaisie de les briser. Mais vous avez très bien fait, mais pourrait-on les voir? Mais oui, mon ami. Il me fait passer dans un cabinet, et à la première vue, je reconnais les glaces du palais Bourbon. Je m'extasie sur leur beauté, sur leur dimension, et après les avoir examinées avec la minutieuse attention d'un homme qui s'y attend, je fais l'éloge de l'ouvrier qui les a démontées sans avoir à endommager le teint. Ah, l'ouvrier, mon ami, me dit-il, l'ouvrier, c'est moi. Je n'ai pas voulu que personne y touchât, pas même pour les charger sur la voiture. Ah, monsieur, je suis fâché de vous donner un démenti, mais ce que vous me dites là est impossible. Il fallait être au métier pour entreprendre une besogne semblable. Et encore, le meilleur ouvrier n'en viendrait-il pas à vous tout seul? Malgré l'observation, il persista à soutenir qu'il n'avait pas eu d'aide. Et comme il ne m'eût servi à même de les en contrarier, je n'insistais pas. Un dimenti était une impolitesse dont il aurait pu se formaliser. Il ne me parla pas avec moins d'aménité. Et après m'avoir à peu près donné ses instructions, il me recommanda de revenir le lendemain afin de me mettre au travail le plus vite possible. « N'oubliez pas d'apporter votre diamant. Je veux que vous me débarrassiez de ces cintres qui ne sont pas de mode. » Il n'y avait plus rien à me dire. Je n'avais plus rien à entendre. Je le quittais et j'allais rejoindre 2 de mes agents à qui je donnais le signalement du personnage en leur prescrivant de le suivre dans les cas où il sortirait. Un mandat était nécessaire pour opérer l'arrestation. Je me le procurai, et bientôt après, ayant changé de costume, je revins, assisté du commissaire de police et de mes agents, chez l'amateur de glace, qui ne m'attendait pas si tôt. Il ne me remet pas d'abord, Ce ne fut que vers la fin de la perquisition que, m'examinant plus attentivement, il me dit « Mais je crois vous reconnaître, n'êtes-vous pas cuisinier ?»« Oui, monsieur, lui répondis-je, je suis cuisinier, tailleur, chapelier, miroitier, et qui plus est, mouchard, pour vous servir. » Mon sang-froid le déconcerta tellement qu'il n'eut plus la force de prononcer un seul mot. Ce monsieur se nommait Alexandre Paruit. Outre les glaces et deux chimères en bronze doré qu'il avait prises au palais Bourbon, on trouva chez lui quantité d'objets provenant d'autres vols. Les inspecteurs qui m'avaient accompagné dans cette expédition se chargèrent de conduire Paruit au dépôt, mais, chemin faisant, ils eurent la maladresse de le laisser échapper. Ce ne fut que 10 jours après que je parvins à le rejoindre à la porte de l'ambassadeur de sa hôtesse, le sultan Mahmoud. Je l'arrêtai au moment où il montait dans le carrosse d'un Turc qui vraisemblablement avait vendu ses odalisques. Je suis encore à m'expliquer comment, malgré les obstacles que les plus experts d'entre les voleurs jugeaient insurmontables, Paruit a pu effectuer le vol qui lui a procuré 2 fois l'occasion de me voir. Cependant, il paraît constant qu'il n'avait point de complice, puisque dans le cours de l'instruction, par suite de laquelle il a été condamné au fer, aucun indice, même des plus légers, n'a pu faire supposer la participation de qui que ce soit. À peu près à l'époque où Paruit enlevait les glaces du palais Bourbon, des voleurs s'introduisirent nuitamment rue de Richelieu, numéro 17, dans l'hôtel de Valois, où ils dévalisèrent M. le maréchal de camp Bouchu. On évaluait à 30 000 francs les objets dont ils s'étaient emparés. Tout leur avait été bon, depuis le modeste mouchoir de coton jusqu'aux torsades étoilées du général. Ces messieurs, habitués à ne rien laisser traîner, avait même emporté le linge destiné à la blanchisseuse. Ce système, qui consiste à ne pas vouloir faire grâce d'une loque à la personne que l'on vole, est parfois fort dangereux pour les voleurs, car son application nécessite des recherches et entraîne des lenteurs qui peuvent leur devenir funestes. Mais dans cette occasion, ils avaient opéré en toute sûreté. La présence du général dans son appartement leur avait été une garantie qu'ils ne seraient pas troublés dans leur entreprise, et ils avaient vidé les armoires et les malles avec la même sécurité qu'un greffier qui procède à un inventaire après l'essai. Comment va-t-on me dire ? Le général était présent ? Hélas, oui. Mais quand on prend sa part d'un excellent dîner, on ne se doute guère de ce qu'il en adviendra. Sans haine et sans crainte, sans prévision surtout, on passe gaiement du Beaune au Chambertin, du Chambertin au Clos Vougeot, du Clos Vougeot au Romanet. Puis après avoir ainsi parcouru tous les crus de la Bourgogne, en montant l'échelle des renommées, on se rabat dans Champagne, sur le pétillant haï, et est trop heureux alors le convive qui, plein des souvenirs de ce joyeux pèlerinage, ne s'embrouille pas au point de ne pouvoir retrouver son logis. Le général, à la suite d'un banquet de ce genre, s'était maintenu dans la plénitude de sa raison, je me plais du moins à le croire, mais il était rentré chez lui, accablé de sommeil, et comme dans cette situation on est plus pressé de gagner son lit que de fermer une fenêtre, il avait laissé la fenêtre ouverte pour la commodité des allants et des venants. Quelle imprudence ! Pour qu'il s'endormît, il n'avait pas fallu le bercer. Oh, j'ignore s'il avait fait d'agréables songes. Mais ce qui demeura constant pour moi, à la lecture de la plainte qu'il avait déposée, c'est qu'il s'était réveillé comme un petit Saint-Jean. Quels individus l'avaient dépouillé de la sorte? Il n'était pas aisé de les découvrir. Et pour le moment, tout ce que l'on pouvait dire d'eux avec certitude, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle du toupet, puisque après avoir rempli certaines fonctions dans la cheminée de la chambre où reposait le général, admirable profanateur, ils avaient poussé l'irrévérence jusqu'à se servir de ses brevets, de manière à prouver qu'il le tenait pour le premier d'honneur de France. J'étais bien curieux de connaître les insolents à qui devait être imputé un vol accompagné de circonstances si aggravantes. À défaut d'indices d'après lesquels je passe, je pousse, essayer de me tracer une marche, je me laissais aller à cette inspiration qui m'a si rarement trompé. Il me vint tout à coup à l'idée que les voleurs qui s'étaient introduits chez le général pourraient bien faire partie de la clientèle d'un nommé Perrin Ferrailleur, que l'on avait depuis longtemps signifié comme un de ses receleurs les plus intrépides. Je commençais par faire surveiller les approches du domicile de Perrin, qui était établi rue de la Sonnerie, numéro 1. Mais au bout de quelques jours, cette surveillance n'ayant eu aucun résultat, je restais persuadé que pour atteindre le but que je m'étais proposé, il était nécessaire d'employer la ruse. Je ne pouvais pas m'aboucher avec Perrin, car il savait qui j'étais. Mais je fis la leçon à l'un de mes agents qui ne devait pas lui être suspect. Celui-ci va le voir, on cause de choses et d'autres, on en vient à parler des affaires. Ma foi, dit Perrin, on n'en fait pas de trop bonne. Mais comment les voulez-vous donc? Répartit l'agent. Je crois que ceux qui ont été chez ce général dans l'hôtel de Valeur n'ont pas à se plaindre. Quand je pense que seulement dans son grand uniforme, il avait caché pour 25 000 francs de billets de banque. Et Perrin était pourvu d'une telle dose de cupidité et d'avarice que s'il était possesseur de l'habit, ce mensonge qui lui révélait une richesse sur laquelle il ne comptait pas devait nécessairement faire sur lui une impression de joie qu'il ne serait pas le maître de dissimuler. Si l'habit lui avait passé par les mains et que déjà il en eût disposé, c'était une impression contraire qui devait se manifester. J'avais prévu l'alternative. Les yeux de Perrin ne brillèrent pas tout à coup. Le sourire ne vint pas se placer sur ses lèvres. Mais en un instant, son visage devint de toutes les couleurs. En vain s'efforçait-il de déguiser son trouble. Le sentiment de la perte se prononçait chez lui avec tant de violence qu'il se mit à frapper du pied et à s'arracher les cheveux. Oh mon Dieu, s'écria-t-il, ces choses-là ne sont faites que pour moi. Faut-il que je sois malheureux? Eh bien, qu'avez-vous donc? Est-ce que vous auriez acheté? Eh oui, je l'ai acheté. Ça me demande-t-il? Mais j'ai revendu. Et vous savez à qui? Sûrement, je sais à qui. Au fondeur du passage Feydeau, au qui brûle les broderies. Ben alors, ne vous désespérez pas. Il y a peut-être du remède, si le fondeur est un honnête homme. Perrin, faisant un saut, 25 000 francs de flambée. 25 000 francs, mais ça se trouve pas sous les pans d'un châle. Mais pourquoi aussi me suis-je tant pressé? Oh, si je m'en croyais, je me chercherais des coups. Eh bien, moi, si j'étais à votre place, je tâcherais tout simplement de ravoir les broderies avant qu'elles ne soient mises au creuset. Tenez, si vous voulez, je me charge d'aller chez le fondeur. Je vous dirais qu'ayant trouvé le placement des broderies pour des costumes de théâtre, vous désirez les racheter. Je leur ferai un bénéfice. Et probablement, ils ne feront aucune difficulté de me les remettre. Perrin, jugeant l'expédient admirable, accepta la proposition avec enthousiasme. Et l'agent, pressé de lui rendre service, accourut pour me donner avis de ce qui s'était passé. Aussitôt, muni de mandat de perquisition, je fis une descente chez le fondeur. Les broderies étaient intactes. Je les remis à l'agent pour les reporter à Perrin. Le moment où ce dernier, impatient de saisir les billets et donner le premier coup de ciseau dans les parements, je parus avec le commissaire. On trouva chez Perrin toutes les preuves du trafic illicite auquel il se livrait. Une foule d'objets volés fut reconnue dans ses magasins. Ce receleur, conduit au dépôt, fut immédiatement interrogé, mais il ne donna d'abord que des renseignements vagues dont il n'y avait pas moyen de tirer parti. Après sa translation à la force, j'allais le voir pour le solliciter et de me faire des révélations. Je ne pus obtenir de lui que des signalements et des indications. Il ignorait, disait-il, les noms des personnes dès qu'il achetait habituellement. Néanmoins, un peu qu'il m'apprit, m'aida à former des soupçons plausibles et à rattacher mes soupçons à des réalités. Je fis passer successivement devant lui une foule de suspects et sur sa désignation, tous ceux qui étaient coupables furent mis en jugement. 22 furent condamnés au fer. Et parmi les contumaces, c'était un des auteurs du vol commis au préjudice du général Bouchu. Perrin fut atteint et convaincu de recel. Mais attendu l'utilité des renseignements qu'il avait fournis, on ne prononça contre lui que le minimum de sa peine. Peu de temps après, deux autres receleurs, les frères Perrault, dans l'espoir de disposer les juges à l'indulgence, imitèrent la conduite de Perrin, non seulement en faisant des aveux, mais en déterminant plusieurs détenus à signaler leurs complices. Et ce fut d'après leur révélation que j'amenais sous la main de la justice deux voleurs fameux, les nommés Valentin et Rigoli di Grindesi. Jamais peut-être à Paris il y eut un plus grand nombre de ces individus qui cumulent les professions de voleur et de chevalier d'industrie que dans l'année de la première Restauration. L'un des plus adroits et les plus entreprenants était le nommé Winter de Saint-Louis. Winter n'avait pas plus de 26 ans. C'était un de ces beaux bruns dont certaines femmes aiment les sourcils arqués, les longs cils, le nez proéminent et l'air mauvais. Sujet. Winter avait en outre la taille élancée, l'aspect dégagé, qui ne méfiait pas du tout à un officier de cavalerie légère. Aussi donnait-il la préférence au costume militaire qui faisait le mieux ressortir tous les avantages de sa personne. Aujourd'hui, il était en hussard, demain en lancier. L'autre fois, il paraissait sous un uniforme de fantaisie. Au besoin, il était chef d'escadron, commandant d'état-major, aide-de-camp, colonel, etc. Il ne sortait pas des grades supérieurs, et pour s'attirer encore plus de considération, il ne manquait pas de se donner une parenté recommandable. Il fut tour à tour le fils du vaillant Lassalle, celui du brave Winter, colonel des grenadiers au chemin de la Grande Impériale, le neveu du général comte de Lagrange et le cousin germain de Rapp. Enfin, il n'y avait pas de nom qu'il emprunta, ni de famille illustre à laquelle il se vanta d'appartenir. Né de parents aisés, Winter avait reçu une éducation assez brillante pour être la hauteur de toutes ces métamorphoses. L'élégance de ses formes et une tournure des plus distinguées complétaient l'illusion. Peu d'hommes avaient mieux débuté que Winter. Jeté de bonne heure dans la carrière des armes, il obtint un avancement assez rapide, mais devenu officier, il ne tarda pas à perdre l'estime de ses chefs, qui pour le punir de son inconduite l'envoyèrent à l'île de Ré, dans un des bataillons coloniaux. Là, il se comporta quelque temps de manière à faire croire qu'il s'était corrigé. Mais on ne lui eut pas plutôt accordé un grade que s'étant promis de nouvelles incartades, il se vit obligé de déserter pour se soustraire au châtiment. Il vint alors à Paris, où ses exploits, soit comme escroc, soit comme filou, lui valurent bientôt le triste honneur d'être signalé à la police comme l'un des plus habiles dans ce double métier. Winter, qui était ce qu'on appelle fiancé, fut une foule de dupes dans les classes les plus élevées de la société. Il fréquentait des princes, des ducs, des fils d'anciens sénateurs. Et c'était sur eux, ou sur les dames de leur société clandestine, qu'il faisait l'expérience de ses funestes talents. Celles-ci, pourtant, quelque averties qu'elles fussent, n'étaient jamais assez pour ne pas céder à l'envie de se faire dépouiller par lui. Et depuis plusieurs mois, la place police était à la recherche de ce séduisant jeune homme qui changeait sans cesse d'habits et de logement, lui échappait toujours au moment où il se flattait de le saisir, lorsqu'il me fut ordonné de me mettre en chasse afin de tenter sa capture. Winter était un de ces Loveless de carcan qui ne trompe jamais une femme sans la voler. Imaginez que parmi ses victimes, il s'en trouvait au moins une qui, par esprit de vengeance, serait disposée à me mettre sur les traces de ce monstre. Et à force de chercher, je crus avoir rencontré cet auxiliaire bénévole. Mais, comme parfois, ces sortes d'Ariane, tout abandonnées qu'elles soient, répugnent à immoler un perfide. Je résolus de m'aborder celle-ci qu'avec les précautions. Avant de rien entreprendre, il fallait sonder le terrain. Je me gardais donc bien de manifester des intentions hostiles à l'égard de Winter. Et pour ne pas effaroucher ce reste d'intérêt, qui, en dépit des procédés indignes, subsistent toujours dans un cœur sensible, ce fut en qualité d'aumônier du régiment qui était dans ce qu'on s'entrecommandait que je m'introduisis près de la ci-devant maîtresse du prétendu colonel. Mon costume, mon langage, la manière dont je m'étais grimé étaient en partie harmonie avec le rôle que je devais jouer. J'obtins d'emblée la confiance de la belle délaissée, qui me donna à son insu tous les renseignements dont j'avais besoin. Elle me fit connaître sa rivale préférée, qui, déjà fort maltraitée par Winter, avait encore la faiblesse de le voir et ne pouvait s'empêcher de faire pour lui de nouveaux sacrifices. Je me mis en rapport avec cette charmante personne, et pour être bien vu d'elle, je m'annonçais comme un ami de la famille de son amant. Les parents de ce jeune étourdi m'avaient chargé d'acquitter ses dettes, et si elle conseillait à me ménager une entrevue avec lui, elle pourrait compter qu'elle serait satisfaite La première, Madame Trois Étoiles, n'était pas fâchée de trouver cette occasion de réparer les brèches faites à son petit avoir. Et un matin, elle me fit remettre un billet pour m'avertir que le soir même, elle devait dîner avec son amant sur le boulevard du Temple, à la Galotte. Dès 4 heures, j'allais, déguisé en commissionnaire, me poster près de la porte du restaurant. Il y avait environ 2 heures que je faisais faction, lorsque je vis venir de loin un colonel des hussards. C'était Winter, suivi de 2 domestiques. Je m'approche et m'offre à garder les chevaux. On accepte. Winter met pied à terre. Il ne peut m'échapper. Mais ses yeux ayant rencontré les miens, d'un saut, il s'élance sur son coursier, pique des deux et disparaît. J'avais cru le tenir. Mon désappointement fut grand. Toutefois, je ne désespérais pas de l'appréhender. À quelque temps de là, je fus informé qu'il devait se rendre au café Hardy sur les boulevards des Italiens. Je l'y devançai avec quelques-uns de mes agents, et quand il arriva, tout avait été si bien disposé qu'il n'eut plus qu'à monter dans un fiacre dont j'avais fait les frais. Conduit devant le commissaire de police, il voulut soutenir qu'il n'était pas Winter. Mais, malgré les insignes de grade qu'il s'était donné et la longue brochette de décoration fixée sur sa poitrine, il fut bien et dûment constaté qu'il était l'individu désigné dans le mandat dont j'étais porteur. Winter fut condamné à 8 ans de réclusion. Il serait aujourd'hui libre, mais un faux dont il se rendit coupable durant sa détention à Bicêtre lui en valut un supplément de 8 ans de galère. À l'expiration de la première peine, il fut envoyé au bagne où il est encore. Il partit en déterminé. Cet aventurier ne manquait pas d'esprit. Il est un surton, l'auteur d'une foule de chansons, fort en vogue parmi les forçats, qu'il regarde comme leur Anacréon. Winter, lorsque je l'arrêtais, avait beaucoup de confrères dans Paris. Les Tuileries étaient notamment l'endroit où l'on rencontrait le plus de ces brillants voleurs qui se recommandent à la publique vénération en se parant effrontément des croix de toutes les chevaleries. Aux yeux de l'observateur qui sait s'isoler des préventions de parti, le château était alors moins une résidence royale qu'une forêt infestée de brigands. Là affluait une foule de galériens, d'escrocs, de toute espèce, qui se présentaient comme les anciens compagnons d'armes des Charles, des La Roche-Jacquelin, des Stollet, des Cadoudal, etc. Les jours de revue et en grande réception, on voyait accourir au rendez-vous tous ces prétendus héros de la fidélité. Et en ma qualité d'agent supérieur de police, secret de sûreté, je pensais qu'il était de mon devoir de surveiller ces royalistes de circonstance. Je me postais donc sur leur passage, soit dans les appartements, soit au dehors, et bientôt je fus assez heureux pour réintégrer quelques-uns dans les bagnes. Un dimanche, qu'avec un de mes auxiliaires, j'étais à l'affût sur la place du Carrousel, nous aperçûmes, sortant du pavillon de Flore, un personnage dont le costume, non moins riche qu'élégant, attirait tous les regards. Ce personnage était tout au moins un grand seigneur. N'eût-il pas été chargé de cordons, on l'aurait reconnu à la délicatesse des broderies, à la fraîcheur de sa plume, au nœud étincelant de son épée, mais aux yeux d'un homme de police, tout ce qui reluit n'est pas d'or. Celui qui m'accompagnait prétendit, en le faisant remarquer, le grand seigneur, qu'il y avait une ressemblance frappante entre lui et le nommé Chambreuil, avec qui il avait trouvé, s'était trouvé au bagne de Toulon. J'avais eu l'occasion de voir Chambreuil. J'allais me placer devant lui, afin de le regarder de face, et malgré l'habit à la française, le jabot à poids d'octroctère, le crapaud, les manchettes, j'ai reconnu sans peine l'ex-forçat. C'était bien Chambreuil, un fameux faussaire à qui ses évasions avaient fait un grand renom parmi les galériens. Sa première condamnation datait de nos belles campagnes d'Italie. À cette époque, il avait suivi nos phalanges pour être au plus à portée d'imiter les signatures de leurs fournisseurs. Il avait un véritable talent pour ce genre d'intuition. Mais, ayant trop prodigué les œuvres de son habileté, il avait fini par s'attirer une condamnation à 3 ans de fer. 3 ans sont bientôt écoulés. Chambreuil ne put cependant se résoudre à subir sa prison. Il s'évada et accourut à Paris, où, pour vivre honorablement, il mit en circulation bon nombre de billets de portefeuille qu'il fabriquait lui-même. On lui fit encore un crime de cette industrie, et traduit devant les tribunaux, il succomba et fut envoyé à Brest, où, en vertu d'une sentence, il devait faire un séjour de 8 ans. Et Chambreuil parvint de nouveau à rompre son banc. Mais comme le faux était sa ressource ordinaire, il se fit reprendre une 3e fois et fit partie d'une chaîne que l'on expédia pour Toulon. À peine arrivé, il tenta encore de brûler la politesse à ses gardiens. Arrêté et ramené au bagne, il fut placé dans la trop fameuse salle numéro 3, où il mit son temps augmenté de ses 3 années. Pendant cette détention, il chercha à se distraire, partageant ses loisirs entre la dénonciation et l'escroquerie, qui n'étaient pas moins de son goût l'une que l'autre. Son moyen de prédilection étaient des lettres imaginaires qui, à la sortie du bagne, lui valurent 2 ans de réclusion dans la prison d'Embrun. Chambreuil venait d'y être conduit lorsque son Altesse royale, le duc d'Angoulême, passant dans cette ville, il fit tenir à ce prince un placet dans lequel il se représentait comme un ancien vendéen, un serviteur dévoué à qui son royalisme avait attiré des persécutions. Chambreuil fut immédiatement élargi et bientôt après il recommença à user de sa liberté comme il avait fait toujours. Quand nous le découvrîmes à l'étalage qu'il faisait, il nous fut aisé de juger qu'il était dans une bonne veine de fortune. Nous le suivîmes un instant afin de nous assurer que c'était bien lui, et dès qu'il n'eut plus de doute, je l'abordai de front et lui déclarai qu'il était mon prisonnier. Chambreuil crut alors m'imposer, en me crachant au visage, une effrayante série de qualités et de titres dont il se disait revêtu. Il était bien moins que directeur de la police du château, chef des haras de France. Et moi, j'étais un misérable dont il ferait châtier l'insolence. Malgré la menace, je ne persistais pas moins à vouloir qu'il montât dans un fiacre. Et comme il faisait la difficulté d'obéir, nous prîmes sur nous de les contraindre par la violence. En présence de M. Henri, M. le directeur de la police du château ne se déconcerta pas, loin de là. Il prit un ton de supériorité arrogante qui fit trembler les chefs de la préfecture. Tous redoutaient que je n'eusse commis une méprise. « Mais on n'a pas l'idée d'une audace pareille !» s'écriait Chambreuil. « C'est une insulte pour laquelle j'exige une réparation. Je vous montrerai qui je suis, et nous verrons s'il vous sera permis d'user envers moi de l'arbitraire que le ministre n'aurait pas osé se permettre. » Mais je fis le moment où on allait lui faire des excuses et me réprimander. On ne doutait pas que Chambreuil ne fût un ancien forçat, mais on craignait d'avoir offensé en lui un homme puissant, comblé des faveurs de la cour. Enfin, je souffris avec tant d'énergie qu'il n'était qu'un imposteur, que l'on ne put pas se dispenser d'ordonner une perquisition à domicile. Je devais assister le commissaire de police dans cette opération, à laquelle il fallait que Chambreuil fût présent. Chemin faisant, ce dernier me dit à l'oreille, « Mon cher Vidocq, il y a dans mon secrétaire des pièces qui m'importent de faire disparaître. Promets-moi de les retirer, et tu n'auras pas à t'en repentir. Je te promets, tu trouveras une double fond dont je t'expliquerai le secret. » Il m'indiqua comment je devais m'y prendre, et je retirai en effet les papiers de l'endroit où ils étaient, mais pour les joindre aux pièces qui légitimaient son arrestation. Jamais faussaire n'avait disposé avec plus de soin l'échafaudage de sa supercherie. On trouva chez lui une grande quantité d'imprimés, les uns avec cette souscription « Hara de France », les autres avec celle-ci « Police du roi », des feuilles à la Tellière portant les initiales du ministère de la guerre, des états de service, des brevets, des diplômes et un registre de correspondance toujours ouvert, comme par mégarde, afin de mieux tromper l'espion, étaient autant de pièces probantes des hautes fonctions que Chambreuil firent éribait. Il était censé, en relation avec les plus éminents personnages, les princes et princesses, lui écrivaient. Leurs lettres et les siennes étaient transcrites en regard les uns des autres. Et ce qui paraîtra bien étrange, c'est qu'il s'entretenait aussi avec le préfet de police, dont la réponse trouvait sur ce registre menteur, en marge d'une de ses missives. Les lumières que la perquisition avait fournies collaborèrent si complètement mes assertions au sujet de Chambreuil qu'on n'hésita plus à l'envoyer à la force en attendant sa mise en jugement. Devant le tribunal, il fut impossible de l'amener à confesser qu'il était le forçat que je m'opiniâtrais à reconnaître. Il produisit au contraire des certificats authentiques par lesquels il était constaté qu'il n'avait pas quitté la Vendée depuis un an. Entre lui et moi, les juges furent un instant embarrassés de prononcer. Mais je réunis tant de si fortes preuves à l'appui de mes dires que l'identité ayant été reconnue, il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité et enfermé au bagne de l'Orient, où il ne tarda pas à reprendre ses anciennes habitudes de dénonciateur. C'est ainsi qu'à l'époque de l'assassinat du duc de Berny, de concert avec un nommé Gérard Carrette, Il écrivit à la police qu'ils avaient des révélations à faire au sujet de ce crime affreux. On connaissait Chambreuil, on ne le crut pas. Mais quelques personnes, assez absurdes pour imaginer que Louvet avait des complices, demandèrent que Carette fût amené à Paris. Carette fit le voyage, et l'on n'apprit rien de plus que ce que l'on savait.